Le dernier kilomètre émotionnel. Une réflexion sur la musique et la manière dont elle nous touche. Je ne connaissais pas personnellement Hajar Ben Boubaker avant de la rencontrer pour enregistrer cette conversation, mais j'avais le plaisir d'écouter régulièrement son podcast Vintage Arab et plus récemment les émissions qu'elle produit pour France Culture. Hajar Ben Boubaker aborde la musique par le prisme de la mémoire, qui prend comme point de départ une conversation entre une mère tunisienne qui partage avec sa fille une passion pour les comédies musicales égyptiennes. Nous écoutons partout de la musique. Mais qu'est-ce que ces musiques disent de nous? Que nous transmettent-elles? Peut-on apprendre à partir des chansons des choses que nul autre espace nous permettrait de toucher du doigt? Hajar Ben Boubaker a inventé une manière de raconter une histoire, celle des musiques populaires arabes, et de la manière dont elles se transmettent. Ensemble, nous avons discuté des enjeux à raconter cette histoire à l'oral, où une position à cheval entre la pratique d'historienne et de documentariste permet d'inventer un outil en écho à la dimension populaire de cet objet d'étude. Bonjour Hajar Ben Boubaker. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir de nous entretenir ensemble. Tu t'occupes d'un podcast qui s'appelle Vintage Arab au milieu de plein d'autres activités. Peut-être que pour commencer, tu pourrais te présenter. Je serais curieux d'entendre toi la manière dont tu décris ton activité. Comment est-ce que tu la circonscris?
Bonjour, je suis ravie de discuter avec toi autour de ces sujets qui me passionnent toujours autant, la place de la musique et d'autres choses. C'est intéressant que tu commences par cette question de me présenter parce que ça a pas mal évolué. Je crois que j'ai pris un peu de confiance en moi dans la manière de me présenter aussi, que des choses ont changé entre le moment où je lance Vintage Arab en passionné et aujourd'hui. Mais je pense que je commencerai quand même par dire que ce qui définit une grosse partie de mon activité, on va dire, artistique, c'est quand même d'être passionné de musique, et particulièrement de musique arabe, mais pas que. Même si c'est vrai que c'est en termes de musique que j'aborde dans mon travail, c'est la centralité, on va dire. Et c'est un peu ça qui m'a menée à faire tous les projets que je fais depuis quelques années. Donc c'est d'abord ça, et c'était passionné dans le sens de ces musiques, de ces histoires, et puis avec aussi un peu une forme de passion du partage, en tout cas d'avoir vraiment très envie de le partager avec d'autres, au départ de mon entourage plutôt, et puis par la suite de personnes totalement anonymes qui ont pu écouter les podcasts et prendre contact avec moi pour en parler, ou pour parler peut-être parfois pas des podcasts, mais d'eux-mêmes, ou de ce à quoi ça qu'est-ce que ça provoquait en eux, on va dire. Par la suite, j'ai un peu fait plusieurs choses différentes qui passent par l'écriture, plutôt d'ordre scientifique, journalistique autour de ces thématiques, des musiques arabes, mais aussi de l'histoire culturelle de l'immigration arabe en France. Maghrébine plus particulièrement. Donc ça, c'est on va dire une deuxième corde qui s'est ajoutée, qui a pu rejoindre d'ailleurs d'autres activités, enfin qui m'était pas non plus totalement inconnue. Là où l'univers de la création sonore était inconnu, en tout cas c'est un territoire que j'ai saisi toute seule, on va dire. Et aujourd'hui, je me définis beaucoup comme documentariste sonore. Parce que je trouve que la pratique, la mienne, a évolué à travers différents projets. Aussi parce que je travaille à la radio aujourd'hui, je travaille pour France Culture. Je fais des documentaires pour France Culture. Et pas seulement d'ailleurs sur les thématiques qui traitent spécifiquement des musiques arabes, comme sur Vintage Arab. Donc je pense que c'est aussi cette évolution-là qui est un peu prégnante en ce moment, ou en tout cas où j'ai un peu plus d'assurance de me définir comme documentariste sonore, créatrice sonore même. Ça, c'est un peu plus difficile de peut-être sans revendiquer.
D'ajouter la création, d'accord.
Mais je sens que quand même...
ça vient.
Il y a cette assurance qui vient et puis cette part du travail qui est quand même... même quand on travaille pour une grande radio nationale, qui est en fait partie intégrante, en fait, on crée. Et j'essaye de l'assumer de plus en plus. D'autant plus que toute l'évolution, toutes les rencontres, tous les projets que j'ai pu mener m'ont amené en fait à vraiment penser la création à la fois dans le fait de raconter des histoires, mais aussi de travailler la matière sonore, au-delà de travailler sur la musique. Donc ça m'a appris d'autres choses, donc je pense que je peux me définir aussi comme ça aujourd'hui.
Je trouve vraiment pas si anodin que ça, la complexité de nommer ce champ-là, parce que pour moi, on reviendra dessus dans l'entretien, mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'invention de cet espace du podcast, d'un espace pour raconter une histoire et d'un espace que je trouve très, très singulier dans le paysage des podcasts et m'intéresse particulièrement dans cette question de cette recherche que j'entame, dans le cadre duquel cette conversation a lieu. Pour moi, cette idée de savoir qu'est-ce qui, dans nos histoires ou qu'est-ce qui, dans nos sentiments, a de spécifique et se transmet par la musique, comment est-ce qu'on peut réfléchir spécifiquement à la question de la musique, à la fois dans nos sentiments et dans nos transmissions. Et du coup, il y a quelque chose que je trouve très particulier à cet endroit-là d'avoir inventé ce podcast. J'étais surpris de ne pas avoir entendu jusqu'à maintenant le mot de historien ou historienne. En discutant, en préparant l'entretien, tu m'as raconté un peu ton parcours. Et pour moi, il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant dans cet espace-là, où le podcast est devenu un espace aussi comme un outil pour écrire une histoire. Bon, ça n'est pas encore tout à fait une question, mais est-ce que ça te dérange ou non d'utiliser aussi ce mot-là ?
Non, du tout. C'est vrai que là, quand tu m'as posé la question, ce n'est pas ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Moi, je me définis comme telle, et ça, je me le suis carrément approprié, parce que, bon, formellement, historienne en France, ça veut dire quelqu'un qui a un doctorat. Je n'ai pas poursuivi, je n'ai pas fini... Voilà. Il y a eu toute une démarche autour de faire un doctorat, de financer, de ne pas le financer. Le contexte de la recherche en France est très difficile, donc m'a poussé à ne pas poursuivre sur cette voie. Et à la fois, je n'avais pas forcément besoin de ce label-là, on va dire, pour m'en revendiquer. Je pense que je travaille assez sérieusement. Et ça, je suis assez sûre de moi pour savoir que j'ai une démarche d'historienne. Mais c'est vrai que, et c'est un peu rare, enfin, c'est pas que c'est pas un peu rare. Souvent, quand on m'interroge sur les travaux que j'ai pu faire ou sur Vintage Arab, on me met dans cette catégorie qui ne me dérange pas du tout. Mais l'aspect création, du coup, se retrouve un peu sur le mise de côté. Et je crois que c'est de plus en plus important pour moi de revendiquer de manière plus formelle le fait de créer. Là où le fait de travailler en historienne, ça, je n'ai pas de doute là-dessus, on va dire. En tout cas, je n'ai pas de problème de légitimité. Et puis, c'était la démarche dès le départ de Vintage Arab. Je pense que j'avais besoin de... Parce que c'est un peu ma façon de fonctionner et de réfléchir, hein. De le raconter en le rendant, de raconter des chansons, des artistes, des mouvements musicaux, même des faits historiques à travers la musique, en ayant quand même un aspect finalement scientifique, dans le sens où voilà, ça repose quand même sur des choses assez, assez formelles historiquement, assez, assez factuelles, c'est expliqué dans ce sens-là. Et c'est là où ça rejoint la création, parce que pour moi, ça ne suffisait pas, en fait. Ça ne rendait pas forcément les choses accessibles. Ça, peut-être même que ça les enfermait, en fait, dans quelque chose de... sérieux n'est pas le terme, mais de figé. Là où je considère que ce n'est pas figé. Surtout quand on aborde la musique, je pense qu'on peut s'accorder cette liberté-là de travailler en historienne et de créer, d'avoir à cœur d'avoir une sensibilité. Et en fait, ça, réellement, on va dire dans le travail académique d'historienne, c'est quand même mis largement de côté. La sensibilité, la subjectivité, elle est pas de mise. Moi, l'idée, c'était de... Et là, je le formule maintenant aujourd'hui, mais je pense que l'intuition, en tout cas, c'était de réussir à un peu allier les deux.
D'accord. Et du coup, l'espace de création sonore permet aussi cet espace-là d'injecter, ou en tout cas de pouvoir utiliser la sensibilité comme outil aussi théorique qui participe de la construction des narrations et de ce que tu expliques.
Oui, pour moi, je trouve que c'est un vecteur, un médium facilitant. Après, j'ai un rapport au sonore et à l'oralité qui s'y prêtait. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire que de raconter, que de formuler un discours, d'être dans le discursif. Ça, depuis petite, je pense que ça a toujours été un peu mon fort. Par contre, le fait d'écrire est plus difficile. Et moi, je me suis dit, et parce que c'est de la musique, et parce que pour moi, il y avait vraiment une nécessité de faire entendre, pas juste de parler de manière figée, mais de laisser une place équivalente, en fait, au discours, à la chanson, à l'extrait sonore. Ça me paraissait être le médium le plus démocratique.
Est-ce que dans ton parcours à la fois professionnel et dans tes formations, est-ce que la radio avait déjà été une option que tu avais imaginée ou
Alors non, non, après la radio, c'est quelque chose qui fait partie de mon éducation, mais j'ai jamais forcément été de mon éducation dans le sens de l'environnement familial, voilà. Ma mère écoutait et écoute toujours Radio Orient, donc c'est une radio qui émet en français et en arabe, et c'est d'ailleurs pour cette raison que ma mère écoute cette radio, parce que le journal est en arabe, parce que la musique diffuse des musiques arabes, mais pas que, mais en tout cas une grande partie de la proposition musicale de la radio, c'est des musiques des pays arabes. Du coup, voilà, il y avait vraiment le fait que les débats... Il y avait des émissions en arabe, quoi. Mais ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment grandi. Mais je ne me suis pas tout de suite pensé... Enfin, je n'ai jamais envisagé, en fait, de faire de la radio. C'est arrivé après Vintage Arab dans mon parcours, où là, il y a des projets où je me suis dit que c'était important de les proposer au service public, d'ailleurs. C'est même pas qu'à la radio, c'est spécifiquement à des radios du service public. Parce que j'avais envie de faire entendre des histoires qu'on entendait moins sur sur le service public, donc qui est censé être, en tout cas, qui a l'ambition d'accueillir et de permettre à tous les auditeurs de découvrir quelque chose ou de s'y retrouver. C'est deux choses différentes, mais je pense que ça se rejoint, quoi. Et j'avais envie de faire écouter à ces auditeurs-là, donc la radio qui est France Culture, qui est donc la radio que moi je découvre beaucoup plus tard. Hein. Je la découvre pas. Mes parents n'ont jamais écouté France Culture. Ils ne l'écoutent toujours pas. Et ça ne fait pas du tout partie de leur environnement. Mais moi, ça l'est devenu un peu plus tardivement, quand j'entre à la fac, et même un peu plus tardivement, où je découvre la radio et que je découvre cette radio qui propose la diversité dans le sens la diversité d'histoires racontées, de formats, avec un pas de côté sur l'actualité qui m'a toujours plu et qui fait aussi partie de l'identité de la chaîne et qui privilégie le documentaire. Donc il y a un format qui m'a toujours intéressée à partir du moment où je le découvre, que ce soit d'ailleurs dans un format plus audiovisuel que dans le format radio. Et cette découverte du documentaire sonore, je le dois à France Culture pour le coup.
Et est-ce que aussi dans ta formation, est-ce qu'il y a une place pour la musique? Est-ce que tu as étudié la musique ou est-ce que c'est quelque chose que,
non,
que tu non, as
non.
aussi abordé en amatrice?
C'est d'abord en amatrice que je l'ai abordé. Moi, j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Donc, c'est des études qui m'ont beaucoup apporté pour plein d'aspects, j'ai appris beaucoup de choses, notamment en histoire, pour l'histoire culturelle, où il y avait quand même des volets qui nous permettaient d'avoir un regard plus moins événementiel des choses. Mais en tout cas, la musique en tant que telle n'a jamais été étudiée. C'est vraiment une formation que je m'approprie plus tard, En me reposant d'ailleurs sur ce que je dis toujours, je ne l'aborde pas en musicologue, je l'aborde d'abord en historienne, même si c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est d'abord cette formation d'historienne qui me permet d'aller vers de la recherche qui concerne, on va dire, un prisme socio-historique de la musique. Et pas en musicologue. Après, moi, j'ai tenté d'apprendre la musique.
OK.
notamment quand je vivais à Tunis, du Oud, j'en ai fait des cours. Je me trouve pas très douée.
OK.
Mais c'était important pour moi d'essayer d'apprendre à jouer d'un instrument qui a quand même fait partie de ma vie tout le temps, et qui a fait partie de ma famille par ailleurs. Et puis, c'était aussi une occasion pour moi de comprendre les modes de musique arabe. Donc, il me donnait un autre accès à ce que je connaissais plus, à l'oreille, en fait.
Alors, tu n'en joues plus. On ne peut pas te voir un jour, un soir, dans une salle.
Je pense que ce serait peut-être pas très agréable. Je ne suis pas hyper douée. mais j'ai encore un oud. Si, j'en ai encore. Je ne m'exerce pas beaucoup. Mais je l'ai gardé. Et peut-être que je me dis qu'à un moment, j'aurais envie de l'investir réellement et de m'améliorer. Là, c'est vrai que c'est une question de temps. Et puis, j'ai d'autres instruments qui me font de l'œil. Moi, je sais que j'ai très envie d'apprendre à faire du qanoun, donc et cette sitar partagée entre plusieurs pays qui en jouent, qui, pour moi, est probablement mon instrument préféré, mais qui n'est pas le plus simple à apprendre. Et par ailleurs, en France, ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un pour apprendre, qui puisse nous permettre d'apprendre cet instrument.
Est-ce que cette question aussi du radiophonique, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais imaginer aussi enseigner un jour, si jamais la fac te demandait de pouvoir présenter cet outil à d'autres historiens ou historiennes? Est-ce que ça te semble un outil un jour qui pourrait devenir comme un outil canonique avec lequel travailler?
Alors moi, ça me plairait beaucoup parce qu'en fait, ça m'a toujours intéressé d'avoir cette possibilité d'enseigner. Et d'ailleurs, pas nécessairement que la radio, mais même en fait des sujets comme, je sais pas, moi, je me vois bien donner un cours sur l'histoire de la musique égyptienne au XXe siècle. C'est un sujet que je connais bien parce que je trouve que ce serait intéressant, que ce serait aussi un pas de côté sur la manière dont on enseigne. L'histoire de ces pays-là en France, et d'ailleurs même dans les propres pays, ce n'est pas forcément ce qui est privilégié de l'aborder par le prisme culturel et de voir les évolutions aussi de propositions musicales entre ce qui est dit classique, populaire, il y a tout un champ. Et la radio aussi. Alors je pense que ce serait intéressant dans le sens où moi j'ai une pratique, peut-être qu'elle va évoluer, je souhaite d'évoluer, mais c'est vrai que je bosse beaucoup autour de l'archive. Quand je travaille en documentaire. Donc ça peut être l'archive musicale, comme dans Vintage Arabe, parce que parfois la musique le rôle de l'archive, ce n'est pas tout le temps le cas. Dans tous les podcasts, des fois, la musique est juste la musique, mais parfois, elle constitue l'archive qui peut expliquer quelque chose, un événement ou une prise de position politique. Et c'est vrai que c'est une pratique, quand j'ai commencé à la radio, qui s'est présenté de manière assez naturelle. Après, je suis quelqu'un qui collectionne ou qui cherche beaucoup d'archives sonores. Déjà, c'était le cas pour la musique. J'ai une collection de vinyles assez importante sur ces musiques-là, avec un peu, pas du tout un regard, on va dire, de digueuse, comme on dit, ou de digger, mais plutôt... je cherche des trucs assez précis, en fait. Donc, je suis déjà un peu avec l'idée de ce que je recherche... parce que ça me plaît ou parce que ça fait sens pour une recherche. Parfois, je ne sais pas, pour le cas, je peux donner un exemple. Moi, j'essaye de travailler quand j'ai le temps sur l'histoire d'un label tunisien. Et donc, ça m'intéresse d'avoir des vinyles de ce label-là à différentes périodes pour raconter autant, on va dire, l'histoire visuelle, parce que c'est aussi une histoire de l'image, en fait, dans la musique, que l'histoire de l'évolution du catalogue du label, qu'on ne peut pas trouver comme ça. On ne peut pas trouver le catalogue avec tout ce qui a été enregistré. Donc, il faut le reconstituer d'une certaine manière. C'est ce genre de démarche qui m'intéresse. Et à la radio, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Donc, j'ai dans mon plus gros documentaire, dans le sens plus gros en volume horaire, j'ai envie de dire, j'ai fait la série documentaire de France Culture autour du mouvement des travailleurs arabes, qui est un mouvement politique des années 70, militant. Et il y avait très peu d'archives, Paulina, parce que c'était un mouvement clandestin, qui n'avait pas de parole donnée aux immigrés à cette époque-là. Et moi, j'ai constitué seule des archives. En 2 ans de recherche, c'est-à-dire de réussir à trouver les personnes qui avaient gardé des bandes sonores, des cassettes, parfois des films militants, des journaux. Donc là, il faut donner à entendre le journal, c'est-à-dire on est sur autre chose en termes d'archives, mais ça reste une archive qui prend une autre forme. Et ça, c'est une pratique qu'en tout cas dans ma pratique radiophonique, j'ai vraiment un peu creusée et ce serait hyper intéressant de présenter aussi la radio.
Sous cet aspect-là de la comment donner à voir ou à transmettre des archives. Et quand tu travailles pendant 2 ans, c'est 2 ans qui étaient encadrés par le travail à France Culture ou c'est des choses que tu avais déjà aussi par toi-même commencé à chercher et à archiver de ton côté?
Alors, moi, pour le sujet du MTA, j'avais une idée précise, enfin, j'avais une idée de vouloir en faire un podcast au départ. Donc, j'avais commencé quand même à faire des recherches. Puis, je l'ai proposé à France Culture et ça a abouti. Et donc, ça s'est, en fait, c'est un peu en 2 temps. Il y a la recherche seule autour du mouvement, avec envie de faire un podcast, mais pas sûr, mais finalement, envie de m'alimenter sur cette histoire, de constituer de l'archive, de comprendre. De mener des entretiens. Et puis après, il y a évidemment eu le travail de réalisation. D'un coup, il faut concrètement réussir à raconter cette histoire à des gens qui ne la connaissent pas. Donc là, ça continue en termes de recherche. Et avec en plus, je savais très clairement qu'en le faisant, je constituais une archive, en fait. Parce qu'il n'y avait
D'accord.
jamais rien eu sur cette histoire. Donc je savais que ça allait constituer une archive pour les historiens. Et en fait, c'est hyper plaisant de voir que ça aboutit et que ça a effectivement constitué une archive dans le sens où c'est la première fois que les personnes témoignaient en 50 ans. Et donc, qu'il y ait une meilleure compréhension de cette histoire-là, mais qu'à la fois, le documentaire va pouvoir être utile, pas qu'à des chercheurs,
Oui.
mais à des personnes qui s'intéresseraient aux années 70 en
Et
France.
déclencher d'autres recherches aussi dans la foulée et centraliser les informations. Et du coup, est-ce que tu fais ce travail-là d'amasser des matériaux ou de chercher ou d'enregistrer? Est-ce que tu enregistres aussi toi-même des choses ou de quelle manière est-ce que tu cherches? Est-ce que le alors c'est peut-être plus précis comme question, de quelle manière est-ce que le sonore oriente le fait de ta recherche.
Et en fait, par exemple, pour le cas du MTA, j'ai été convaincue qu'il fallait le faire. J'avais une idée. Et j'avais commencé d'ailleurs à faire un podcast. C'est le premier épisode de Barbès Blues sur Vintage Arab, sans aucune matière sonore
OK.
provenant. Et en fait, une personne m'a contactée que je connais et m'a dit, mais en fait, mon oncle était au MTA. Improbable, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Et elle me dit, j'ai une cassette à te montrer. Et elle me donne une archive de 1975, une cassette sonore, enfin une cassette. D'émissions de radio immigrées enregistrées sur cassette et distribuées dans les foyers Sonacotra et les cafés dans ces émissions. Donc, constituées vraiment comme une émission radiophonique. Les personnes revendiquent les droits des droits au logement, parlent de la lutte contre le racisme, diffusent des chansons palestiniennes, parlent de la cause palestinienne. Et là, l'archive vient à moi. Donc, en fait, ça peut être. Parfois, je les cherche et parfois, elles arrivent parce que le sujet ou parce que les bonnes rencontrent. Et c'est vrai que maintenant, quand je trouve une archive, des fois, je me dis, mais est-ce que ça ferait pas un bon documentaire? Après, c'est pas sûr qu'en fait, ça marche, mais je me pose quand même souvent la question quand elle raconte. Je sens qu'elle raconte beaucoup de choses, que ça mérite d'être creusé, je me dis, bah, prends un temps de recherche, prends 2, 3 jours pour chercher sur ce sujet et voir, en fait, si c'est juste un bel extrait sonore ou si c'est clairement
Oui,
une piste vers
une
autre
bonne
chose.
piste. D'accord. Et du coup, le podcast lui-même a permis de générer comme ça des rencontres et des choses qui sont venues vers toi de manière. Il y a d'autres histoires comme ça qui te sont arrivées. Est-ce que tu as découvert un public et de quelle manière est-ce que tu connais le public du podcast
Alors, ça reste assez
C'est ça.
flou. Même si j'ai des idées, enfin, je vois bien qu'il y a des gens qui suivent beaucoup, qui m'interpellent régulièrement sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que je suis quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, que ça a été, que moi, j'y vois un vrai avantage dans la mesure où genre, je partage ce qui me plaît et pas beaucoup de moi, en fait, en tant que personne, mais plus autour de ce qui m'intéresse. Et que ça permet à certaines personnes de réagir. Et je vois qu'il y a des gens qui réagissent de manière régulière. Donc, des fois, j'ai l'impression de les connaître, mais je ne les connais pas plus que ça. Mais je sens, en tout cas, je suis capable, pour certains followers de Twitter et d'Instagram, de savoir quels sont leurs chanteurs préférés. C'est déjà beaucoup sur une personne, je trouve, de deviner quels sont leurs... ou même pas de les deviner. Parfois, on me le confie, on me le dit. On me demande des podcasts. Sur des chanteurs.
Sur les réseaux sociaux.
Oui, sur les réseaux sociaux et même parfois en vrai, parce que bon, il m'arrive de faire des conférences, de rencontrer les gens. Donc les gens viennent me donner leur retour. Et c'est vrai que c'est plutôt toujours les retours positifs quand quelqu'un fait la démarche d'aller parler vers une personne, à une personne. Mais,
heureusement.
Mais ça donne lieu à des conversations et il y a aussi des retours qui parfois ne durent. Enfin, c'est qu'un instant en fait. Une personne va se confier sur son rapport à la musique, sur son histoire familiale, et ça, c'est toujours très, très émouvant. Ou même, je me rappelle d'avoir déjà eu des messages d'étudiants ou d'étudiantes qui me disaient « on a utilisé ton podcast dans le cadre d'un exposé à la fac ». Et je trouve ça super, en fait, de savoir qu'un petit podcast sur SoundCloud est utilisé par des étudiants qui se... Enfin, c'est exactement... J'aurais pas pu rêver mieux, en fait, d'une certaine manière, qu'on s'en saisisse de cette manière-là. Donc oui, j'ai des retours, j'ai même des demandes, et je trouve ça assez chouette, même si je pense que je peux pas y répondre, en fait, parfois. Mais c'est vraiment des
interactions. C'est déjà arrivé que ces interactions soient le déclencheur d'un épisode suivant où,
en tout cas, ça a pu être aussi des rencontres, parce que là, il y a les rencontres de personnes que je connais peu, mais il y a des gens qui ont fini par devenir des personnes qui font partie de ma vie, ou en tout cas, des personnes avec qui j'ai travaillé. Moi, je pense notamment à un épisode sur Farid Latrache que je fais avec Bachir, qui est un des membres de Toukadim. En fait, Toukadim étant un duo de DJ, ils font partie vraiment des premiers en France à avoir travaillé sur les musiques maghrébines à la radio. Enfin, les premiers en France à en faire des émissions, on va dire, dans l'histoire récente, contemporaine, il y a 10 ans, dans une radio associative de Rouen. Et bref, on ne se connaît pas, mais on se rend compte qu'on connaît bien tous les deux l'œuvre de ce chanteur égypto-syrien. Égypto-syrien-libanais, bon, c'est compliqué, mais en tout cas, il est syrien, c'est sûr. Et il a grandi en Égypte. Et on se dit, bah, ça ferait... si on met nos deux cerveaux, ça peut donner un truc, quoi. Okay. Donc, j'ai pu vraiment travailler avec lui sur cette thématique, mais aussi sur la thématique des samples arabes dans le rap. Et puis, il y a eu d'autres podcasts qui ont pu venir en fait d'une conversation ou d'une rencontre aussi. Moi, par exemple, le seul podcast que j'ai fait pour lequel j'ai été rémunérée, y en a un seul. C'est mentionné en début, c'est très peu, j'accepte très peu ce type de sollicitation, ça m'est arrivé, mais je le fais très peu quand je le sens pas. C'était pour un centre, le FGO Barbara à Barbès. Et elle faisait, il y avait une édition du festival Magic Barbès. Et moi, je suis très attachée à ce quartier, au 18e arrondissement. Et le directeur artistique du festival, j'apprécie beaucoup son travail. Donc, quand on me sollicite et qu'on me propose un podcast sur Cheikh Haremiti, je me suis dit, ouais, en fait, avec eux, j'ai bien envie de le faire. Et j'avais déjà en tête de le faire. Mais c'est vrai que ça a précipité sa réalisation parce qu'il y avait un cadre, parce qu'il y avait, une attente et il y avait une façon de mettre à l'honneur cet artiste dans le cadre du festival que je trouvais très chouette. Donc oui, il y a des podcasts qui viennent de discussions, de rencontres, professionnelles ou non. Et oui, je pense que d'ailleurs les prochains peuvent être... un peu dans cette lignée-là, dans la lignée de la rencontre, pas forcément d'ailleurs professionnelle, mais de la rencontre, où il y a des podcasts qui viennent. Par exemple, j'en ai fait deux en arabe pour Radio El Har, la radio palestinienne, la web radio palestinienne. Donc, ça vient d'une discussion avec un ami, Léopold Lambert de The Funambuliste, qui me dit, ça se lance, c'était au tout début de la radio. Et je me dis, mais en fait, il me dit, tu devrais proposer un truc. J'en ai parlé à Youssef. Et bah, moi, je me dis, mais trop bien, une web radio palestinienne en pleine pandémie. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait ces deux podcasts en arabe. Je ne sais pas si j'aurais sauté le cap de les faire s'il n'y avait pas eu Radio Al-Hara.
Est-ce que ça t'a donné aussi un autre retour et d'autres ouvertures aux diffusions, le fait d'avoir ces.
Ah bah déjà, ça a été diffusé en direct, c'est la première fois que ça se diffusait en direct.
Okay.
Déjà, on sort du format podcast, c'était avant mes débuts à France Culture. Et moi, je me rappelle qu'il y avait un chat de commentaires sur Radio Al-Hara à la web radio, où on peut voir les réactions. Et en fait, c'était très émouvant de voir des réactions en arabe, en fait. Ce qui n'arrive pas ou peu. En tout cas, ce n'est pas la première langue vers laquelle on m'aborde.
Dans ce contexte-là.
Et il y a un podcast où je parle avec ma mère, en fait. Et c'est le seul où ma mère accepte de parler parce qu'il est en arabe.
Okay.
Bon, ma mère, elle parle très bien français, mais elle se sentait beaucoup plus à l'aise de parler de ça en arabe. Et en fait, je vois des trucs qui disent « Ah, oh, trop mignonne, Om Hajar, la mère d'Ajer. » Donc, c'est vraiment la manière dont on appelle une personne dans les pays arabes. On dit le fils d'eux ou la fille d'eux. Ouais. Et je trouvais ça hyper émouvant, en fait. Et je ne savais pas si la personne était en Palestine, elle était ailleurs. Il n'y avait pas forcément d'indication géographique. Mais c'était très émouvant de voir ces réactions-là dans ma langue maternelle, en fait.
Et est-ce qu'il y a des moments où il y a des rencontres physiques autour du podcast? Est-ce que tu rencontres ou est-ce que tu diffuses en direct? Est-ce que c'est déjà arrivé?
Oui, ça m'est arrivé deux fois. Alors, il y a eu le podcast sur Cheikh Harimiti, donc au FGO Barbara. Mmh. Et c'était hyper gênant pour moi, donc je me suis cachée dans les coulisses.
de t'entendre.
Ouais, avec des haut-parleurs et tout. Horrible. Ouais. Enfin, même ça, aujourd'hui, je ne peux pas. Et il y a eu une autre diffusion dans le cadre du festival de Douarnenez qui portait sur l'Algérie et une diffusion du podcast que j'ai fait sur Cheb Hasni. Et là, pareil, je me suis un peu échappée de l'écoute collective. Pourtant, j'adore ces moments quand c'est d'autres créations sonores.
Okay.
Mais j'ai beaucoup de mal quand je m'entends.
À t'entendre, ok. Donc, ce n'est pas encore un format qui te semble...
Non, c'est hyper difficile.
Investir.
Même, en fait, je n'arrive pas à écouter mes... Ça commence à s'améliorer, mais bon, c'est un peu différent les documentaires. Je parle très peu dans le documentaire, donc je peux vite zapper le moment où je... Quand je suis sur France Culture, je peux très vite zapper le moment où j'interviens. Alors que sur Vintage Arab, c'est pas possible.
Et le format de Vintage Arab continue en parallèle à ton travail à France Culture. C'est des formats différents et c'est pas... Ça se superpose pas...
Alors là, c'est vrai qu'il y a eu un moment d'arrêt de plus d'un an, pour plein de raisons personnelles et professionnelles, où j'avais vraiment des projets qui me prenaient tout le temps et je n'avais pas très envie de bâcler un épisode juste pour lancer un épisode. Puis par ailleurs, comme en plus je suis dans un autofinancement, je n'ai pas envie de me mettre de pression non plus. Enfin, je ne rends des comptes à personne, en fait. Ça continue quand même à être ma vision des choses, même si je sais que parfois, y a des gens qui me font des retours de « ça fait longtemps ». Je le sais, mais dans ce cadre économique, que pour l'instant, c'est un choix, j'ai pas envie de le vendre pour l'instant à, un studio de podcast, parce que j'aurais pas envie qu'on vienne se mêler de ce que je raconte, si j'ai envie de raconter des choses qui poseraient problème ou j'en sais rien. Au printemps, je m'y remets. Et je m'y remets des idées assez précises, mais pareil, de toute façon, dès le départ, je me suis jamais lancée un rythme, en fait. Voilà, j'avais pas envie de me dire tous les mois je sors un podcast, tous les deux mois j'en sors un, parce que ça me... Il y a quand même une histoire, mine de rien, d'inspiration. C'est quand même... C'est pas du talk, quoi. Enfin, je me pose pas devant le micro et je dis ce que j'ai à dire. C'est souvent des textes qui sont quand même un peu travaillés en
avant. Mais c'est pas improvisé, c'est pas des choses que tu sais, que tu... Enfin, chaque émission est préparée.
En fait, je pourrais le faire comme ça. Je l'ai déjà fait, de raconter, de commenter des musiques. Et je pense que factuellement, je me tiens. Mais j'ai envie quand même que ça reste une histoire à raconter. Et je trouve pas que ce soit très raconté de me mettre devant le micro et de dire j'adore cette chanson parce que ma mère l'adore. Et d'ailleurs, en 1967, tout le monde l'écoutait parce qu'il y avait la guerre et que la guerre a été perdue. Je trouve que ça perd de son intérêt de le faire comme ça. Et je pense que j'ai besoin que ce soit un peu immersif. Et donc, que ce soit un peu travaillé au niveau du texte. avant de pouvoir passer le cap de l'enregistrement.
Parce qu'il y a, alors pour moi, cette question, elle m'intéresse parce qu'il y a le, pour moi, il y a toute une dimension que je trouve vraiment passionnante sur la question de la transmission et qu'est-ce qu'on arrive à transmettre de spécifique par l'oral par rapport à l'écrit et comment est-ce que les outils sont différents. Et du coup, voilà, ça m'amène à cette question. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a de différent dans cet espace entre un espace académique qui est celui où on pourrait parler de la musique par l'écrit et comment est-ce que le podcast est arrivé comme un outil qui t'a semblé plus évident et avoir du sens à cet endroit-là.
Moi, je trouvais que déjà, ça s'inscrivait dans l'oralité, comme la musique, en tout cas comme les musiques. Bon, des fois, j'ai diffusé des musiques sans parole, mais si on part du principe qu'il y a de la musique avec texte, on est sur le même registre, même si on ne fait pas la même chose avec, l'artiste que je joue. Et oui, je trouvais qu'il y avait, même s'il y a une partie du texte qui est écrite, en fait, elle est écrite c'est écrit de manière orale. Ça veut dire que je me mets pas la même, enfin, c'est pas la même méthode de travail. Quand je rédige un texte, je me pose devant mon ordi, mon cahier, je rédige, Là, c'est souvent dans ma tête que je me fais un récit. Et parfois, même à l'oral, parfois, je parle toute seule. Mmh. Et je raconte le. Enfin, je me fais un début d'épisode. Okay. Et après, je note. En fait, c'est bizarre.
Donc tu prends des notes à l'oral aussi
Ouais, alors je m'enregistre assez peu, mais je commence d'abord à raconter. Et puis je me dis, tiens, ça le ferait bien. Donc je peux noter après, prendre des prises de notes qui sont toujours assez partielles et qui sont toujours retravaillées après, parce que même si je remets tout ça dans l'ordre et que ça fait un texte complet, des fois, je le lis comme si j'allais enregistrer le podcast et je me dis, ça ne fait pas assez oral. Enfin, j'y arrive. Okay. Enfin, je vois bien qu'en fait, oralement, je ne le fais pas pareil. Donc, je note un peu ma reprise, en fait. Mmh. Et c'est vraiment le fait de le faire à l'oral qui guide le même si c'est même si un travail écrit, ça passe à un moment par l'écrit, c'est vraiment la façon de parler oralement qui compte pour moi dans la manière dont je rédige le texte parce que je trouve que c'est un bon vecteur de transmission, c'est quelque chose qui me correspond. C'est aussi peut-être lié à l'histoire de la manière dont moi j'ai acquis ces connaissances. C'est passé d'abord par l'oral. Bien sûr, il y a eu des lectures de textes, de la recherche. Mais j'ai rarement travaillé sur des artistes ou des chanteurs sur lesquels je connaissais rien ou sur lesquels j'avais jamais eu d'éléments racontés.
Ouais,
ça pourrait arriver, mais c'est vrai que c'est d'abord un échange oral qui m'amène à eux. Ouais, et peut-être que je reste dans cette lignée-là sans m'en rendre compte. Là, je pense en.
Est-ce que c'est souvent par des biais, je sais pas, du familial ou de l'amical, ou ça passe aussi par des récits oraux de gens que tu connais pas du tout
Alors, ça passe beaucoup par la famille. Pour le cas de Vintage Arab, c'est quand même d'abord un lien avec ma mère. Ça, je sais pas si ça le matérialise, mais en tout cas, ça lui donne. Il y a quelque chose du lien avec ma mère que j'ai investi dans ce podcast, mais du lien vraiment de passionné de musique et que voilà, c'est quand même elle qui me donne les bonnes bases de connaissances. Et c'était aussi intéressant pour moi, ces discussions avec ma mère, parce que j'étais assez jeune, très jeune. J'ai l'oreille qui m'a portée vers ces musiques qu'elle écoutait. Et j'avais l'impression déjà qu'il y avait un dialogue à égalité sur le sujet. C'est-à-dire qu'elle était hyper étonnée que ça m'intéresse. Je pense que, de toute façon, peu de personnes lui posaient la question. Et donc, il y avait vraiment une envie de m'expliquer les choses. Et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Bon, bien sûr, j'ai pu m'éloigner de sa subjectivité. On n'est pas d'accord sur tout, au niveau musical. Mais il y a quand même eu une transmission de faits, de raconter. Par exemple, elle s'est toujours attachée à rendre compte d'une biographie, même partielle, des artistes qu'elle écoutait. Parce qu'elle les connaît bien, c'est ceux de sa jeunesse ou ceux avec lesquels elle a grandi, donc il y a vraiment de ça. Et je pense que j'ai réinvesti de ce dialogue-là dans ma façon de faire. Après, c'est aussi des rencontres. Il y a des choses que je découvre vraiment, d'ailleurs, via Vintage Arab. Moi, je prends quelqu'un comme Naïma Yahi, qui est une grande historienne, je la rencontre grâce à Vintage Arab. Et c'est en discutant de certains artistes que je connaissais d'écoute, où je me dis, mais en fait... leur parcours ou cette chanson, elle dit quelque chose de plus que juste une entre guillemets, une chanson. Elle raconte soit le parcours de la personne, soit carrément un événement historique. Enfin, je trouve ça intéressant, en fait, que ça passe souvent par le biais de discussions, ce rapport à la façon de raconter la musique. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi des choses que je découvre en lisant, mais c'est plus rare.
D'accord. Et du coup, est-ce que ça induit une forme de résistance à l'écrit ? Est-ce que cette histoire qui se raconte dans le Tadja Rap serait résistante à être transmise d'une autre manière ?
Alors, non, parce que moi, je me verrais bien écrire un bouquin sur les musiques, mais je ne procéderais pas, je pense, de la même manière. Enfin, je pense qu'il y aura peut-être un truc où on me reconnaîtrait, parce que je pense qu'on ne disparaît pas derrière la plume, hein, même quand elle est académique. Mais non, en fait, par exemple, on m'a déjà proposé de mettre Vintage Arab en livre et je n'arrive pas à trouver la pertinence de retranscrire les podcasts tels qu'ils sont.
Est-ce que c'est un exercice que tu as déjà fait de le retranscrire tels qu'ils sont écrits
Alors moi, j'ai reçu des retranscriptions des podcasts. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, non, il faut creuser là, il faut creuser là, on est sur un autre vecteur. Enfin, voilà, à chaque fois, je me dis... Et peut-être que j'ai pas envie que si un bouquin Vintage Arab, ce soit exactement le podcast. J'ai envie qu'ils aient deux vies différentes. J'avoue que ça m'interroge. Après, j'entends les arguments des personnes, des éditeurs qui me disent, en fait, ça peut le faire. Mais je me dis, mais pourquoi ? Puisque les gens peuvent l'écouter. Pourquoi acheter un bouquin où c'est écrit ?
Oui, pourquoi Mais après, ça touche aussi une question sur l'académisme. Est-ce qu'il y a un espace où ce document pourrait aussi faire office de travail académique ? Est-ce que ça peut avoir des liens ? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu souhaiterais ou
En tout cas, dans les arguments que je trouvais intéressants, contre-argument à mon argument de « en fait, les gens peuvent écouter le podcast », c'est que des gens disaient « mais en fait, là, l'information, on la retrouve plus facilement que si on réécoute tout le podcast ». Parce qu'à tel moment, tu expliques que Nizar Qadben, grand poète syrien, a écrit ce poème en telle année parce qu'il se passait tel truc et il travaille avec telle chanteuse. Et en même temps, je ne sais pas si je suis totalement convaincue que ce soit...
Parce qu'on ne peut pas non plus lire en cuisinant. C'est quelque chose de vraiment compliqué.
En tout cas, je pense que s'il doit y avoir une retranscription, je ne sais pas, peut-être que là, je dis que je ne suis pas hyper intéressée par ce format, mais qu'en fait, je vais le faire pour une X ou Y raison. Mais je pense que je n'accepterai jamais que ce soit retranscrit sans y ajouter quelque chose.
D'accord, ce n'est pas cette forme-là.
Parce que je pense que c'est une forme orale qui doit... Enfin voilà, que ce podcast doit rester ce podcast et que si il doit apparaître à l'écrit à un moment... Il doit être, il doit être repensé.
Oui, d'accord. Et ta mère, son rapport à la musique, c'est quelque chose qu'elle a construite aussi de manière en amateur ou elle a pratiqué, ou elle a apprise
En amateur. En amateur, avec un environnement... Bon, ma mère, elle est née... au début des années 60, en Tunisie, et elle avait donc des frères et sœurs qui... elle a grandi dans un environnement musical, je veux dire. En plus, elle est née à une époque où quelqu'un comme Oum Kolthoum était encore en vie. Donc, elle grandit avec des gens qui écoutent ça tout le temps. Donc, il y a cet environnement musical et elle se crée aussi ses propres stars. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup, beaucoup écouté de musique. Et d'ailleurs... je parle de sa jeunesse, mais moi, j'ai toujours eu une mère qui écoutait beaucoup de musique et qui en faisait un rituel pour certains moments de la journée où on est quasiment sûr, quand on rentre chez mes parents, qu'il y aura de la musique. Il y a des moments où c'est vraiment qu'il se passe un truc bizarre s'il n'y a pas de musique à tel moment de la journée. Donc, ça fait partie des rituels. Mais elle se forme toute seule. Après, elle se forme aussi. Et c'est en ça que je trouve que c'est... une encyclopédie populaire aussi, c'est-à-dire qu'elle se forme avec sa propre écoute des œuvres, donc qu'elle connaît bien pour certains artistes, même très bien, et qui aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui, à son âge, connaît encore par cœur plein de chansons, je veux dire. Et aussi, en lisant les magazines de l'époque, où mine de rien, en fait, on avait beau dire que c'était des magazines pour les jeunes, aujourd'hui, en fait, c'est des matériaux énormes de connaissances sur les musiques, par exemple, égyptiennes. Et ma mère a été abonnée à l'équivalent de Star Club, je ne sais plus comment ça s'appelle en France, mais de Salut ou de Fan 2, et de ces magazines que nous, on a connus aussi. Mais en fait, pour elle, ça lui donne une connaissance assez assez précise des choses, en fait, d'avoir eu aussi accès à une lecture qui relevait de, je sais pas, du rôle de fan à l'époque, mais qui, 50 ans plus tard, font qu'elle a une connaissance très précise de la musique égyptienne, par exemple.
Est-ce que dans votre relation, vous avez assez tôt parlé de ces musiques ? Ou c'est quelque chose qui est venu pour toi plus tard ? Est-ce que ça fait partie de rituels familiaux que vous avez outre de l'écouter, d'aussi en parler, il me semble. De...
Alors, ça arrivait beaucoup, le fait d'en parler. Bon, a priori, assez jeune, je posais des questions sur qui chante pas, voilà, qui chante. Mais c'est vrai que c'est pas mal arrivé avec le cinéma égyptien, les comédies musicales, où là, d'un coup, on a des personnes sous nos yeux, il y a un scénario, il se passe des choses. Et moi, je pose tout le temps la question de mais c'est qui l'acteur, et c'est qui cette fille, et quelle chanson. Et je me rappelle qu'un des premiers artistes sur lesquels je l'interpelle, c'est Farid Latrosh, justement. Mmh. Je l'interpelle de manière, ça l'a fait beaucoup rire aujourd'hui, parce qu'en plus, c'est pas vrai, factuellement, ce que je disais. J'étais très petite et je lui dis, mais qui est le petit gros ? On a raconté. Mais il fait absolument pas gros, par ailleurs. C'est un peu sorti de ma tête. Et donc, elle m'explique, c'est un grand chanteur. Et donc, c'est commencé d'abord un dialogue très enfant, enfin, avec un enfant. Mais mine de rien, il y avait quand même un peu de sérieux. Enfin, c'était pas juste, c'est un chanteur, il chante bien, oulala. Mais c'est un grand chanteur, il est syrien, enfin voilà, avec beaucoup de faits précis. Et petit à petit, ça s'est un peu... oui, ça s'est, c'est devenu encore plus sérieux, on va dire, dans l'échange. Mais ça reste toujours assez bon enfant. C'est pas non plus... je pense qu'elle se rend pas nécessairement compte de tout ce qu'elle sait, par ailleurs. Donc elle se prend pas très au sérieux quand elle le transmet. Et puis, ça peut donner lieu à des débats, enfin... Et d'amener à une idée à une autre. Enfin, moi, je sais que j'apprends qui est le scénariste de tel film. Et, enfin, voilà, moi, Youssef Chahine, je ne l'ai pas du tout appris connu parce que j'ai vu ses films les plus primés à l'étranger, mais parce que ça a commencé avec les comédies musicales. Donc, je savais qui était Youssef Chahine, le réalisateur, avant même de savoir qu'il avait une vraie stature internationale, très connue. Mm-hmm. Pareil pour Omar Sharif. Omar Sharif, c'est un exemple très, très parlant, parce que je le connaissais très bien.
Horizon dans les comédies égyptiennes.
Ouais, et ben moi je le connaissais très bien dans son dans ce qu'il était jeune en Égypte. Donc ça me paraissait très bizarre qu'il apparaisse à la télévision française pour faire
pour le
tiercé.
Pour le tiercé.
Et je voulais pas trop croire que c'était lui. Ou pareil quand Samia Gamel dans Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel apparaît, je comprends pas ce qu'elle fait dans la télé française. Parce que je l'avais déjà vue dans les films et que je savais qui elle était, mais ça me paraissait très bizarre qu'elle apparaisse d'un coup dans un film en français. Et donc, oui, il y a des choses comme ça qui ont été de l'ordre de la transmission. Donc, Omar Sharif, ça a été, oui, un moment d'explication de Omar Sharif à une carrière que mes parents ne connaissent pas du tout, à l'international. Ils n'ont jamais regardé ses films à l'international. Mais ça expliquait que, et qu'il était un grand joueur... de jeux en général pour expliquer qu'il était dans la pub du tiercé quoi.
Alors cette recherche m'a amené à je suis en train d'essayer d'esquisser une théorie, je sais pas si c'est vraiment une théorie mais il y a quelque chose qui m'intéresse parce que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que la place qu'occupe la musique dans nos vies des dimensions que je trouverais très intrigantes, c'est le fait que beaucoup de ce que l'on écoute est vraiment... on écoute des musiques qui sont sentimentalement très chargées et on peut, je sais pas, aller à rendez-vous à la banque en écoutant des trucs qui nous portent, qui nous poussent à pleurer ou alors aller à passer des entretiens d'embauche, à écouter des choses dans la salle d'attente qui nous énervent. et pour moi, il y a quelque chose de très étrange. Comment est-ce qu'on cultive comme ça ce rapport émotionnel et comment est-ce que la musique nous aide aussi à cultiver ce rapport émotionnel? Et en travaillant sur cette question-là, il y a une dimension qui m'intéresse. Je me suis rendu compte il y a quelque temps que la musique peut occuper quelque chose qui est assez proche de la manière dont les rêves sont importants dans notre compréhension des choses, c'est-à-dire que les rêves nous entraînent à vivre des situations difficiles ou à vivre des situations de stress, à nous préparer à vivre des choses très, très difficiles. Et pour moi, il y a quelque chose dans cette... J'ai l'impression que les chansons nous accompagnent un peu dans ces espaces-là, en tout cas un certain type de chansons. Et il y a une dimension que je trouve... Alors voilà, c'est là où ma petite théorie s'esquisse. dans quelque chose que j'appelle le dernier kilomètre, ou le dernier kilomètre émotionnel, où j'aurais cette idée que dans la science en urbanisme, dans la science du déplacement, le dernier kilomètre, c'est l'idée que comment est-ce qu'on peut se déplacer entre quand on prend le transport en commun, il y a toujours ce problème d'arriver à la gare, on prend un train, on prend le métro, après on prend un bus. Et parfois, quand on habite à la campagne, il reste un dernier kilomètre qui fait qu'au lieu d'utiliser le transport en commun, on va prendre sa voiture. Et c'est le moment où le transport en commun devient un transport particulier. Et il y a quelque chose pour moi entre la sociologie, l'histoire et tous les outils de sciences humaines qui permettent de décrire certaines des émotions et certains des problèmes qu'on rencontre. J'ai l'impression que la musique a une manière de nous aider à parcourir ce dernier kilomètre. C'est quelque chose qu'on emmène avec nous dans des endroits plus intimes. C'est des endroits qu'on amène. On peut passer la journée à travailler à la bibliothèque, à lire des choses, mais on va ramener la musique chez nous et on va l'écouter dans des lieux, on va aller en boîte, on va aller... Et j'ai l'impression que la musique a un peu cette fonction de ramener dans nos intimités des choses que la sociologie ou que l'histoire par ailleurs travaille ou nous aide à réfléchir ou nous aide à questionner. Et alors, à partir de cette esquisse de théorie, je me demandais, qu'est-ce que tu imagines que des gens qui écoutent Vintage Arab emmènent chez eux dans leur intimité, dans ce dernier kilomètre hypothétique?
C'est pas facile comme question. J'ai l'impression, en tout cas dans les retours que j'ai, je parlerai pas pour tous les auditeurs ou éditrices, que je les ramène pour, en tout cas ceux qui ont partagé de près, de loin, cet héritage avec moi, je les ramène un peu chez eux. Okay. En tout cas, c'est ce type de retour que j'ai pu avoir de personnes très différentes de moi par ailleurs, pas la même nationalité, pas le même genre, pas le même âge. Donc je trouvais ça intéressant de voir, et ça c'est un peu la force aussi de musique transnationale, hein, parce qu'on parle quand même de musique qui sont souvent écoutées pas que dans un seul pays, parce qu'il y a le vecteur linguistique qui est très fort, en fait, dans ce partage-là. Mais c'est vrai, oui. Et parfois, d'ailleurs, c'est des retours sur des musiques pour lesquelles, moi, chez moi, on ne les écoute pas. C'est moi qui me les suis appropriées. Je prends, par exemple, le cas de Chehar Emeti, dont je parlais, la chanteuse algérienne. Mes parents n'écoutaient pas cette chanteuse. C'est moi qui la découvre plus tard. Et en fait, entendre des gens me dire « ça me rappelle chez moi, ça me rappelle mon grand-père », je me rappelle très bien pour ce podcast, quelqu'un qui m'a dit « ça me... » Deux personnes m'ont dit « ça me rappelle mon grand-père ». Et c'était pas d'ailleurs par rapport à elle, c'était par rapport à un autre chanteur, très très ancien, un des premiers chanteurs algériens enregistrés sur 78 tours, originaire d'Oran aussi, Cheikh Hamad, où les deux personnes me disaient « mon grand-père », ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même âge en plus ces personnes, écoutez ça. Donc c'est assez, c'est souvent ce type de retour-là que j'ai, de quelque chose qui relève de la famille ou d'un endroit où il y a plutôt des souvenirs, des beaux souvenirs, où parfois il peut y avoir des retours où il y a un peu de quelque chose de douloureux parce que la personne n'est plus là. Mais c'est vrai que c'est plutôt ce côté de familiarité qui revient dans le dans les retours que j'ai, en tout cas, sur ce dernier kilomètre, j'ai l'impression qu'il y a un peu un chemin vers la maison pour certains.
D'accord. Et toi, c'est l'endroit où tu aimerais aller, enfin, est-ce que ça te semble faire évidence, cette remarque?
Alors, pas à ce point, en fait. Moi, j'avais très envie, hein, quand j'ai commencé Vintage Arab, à faire quelque chose qui toucherait d'abord, qui s'adresserait d'abord à ceux qui partagent cet héritage. Mais j'en faisais pas non plus son seul objectif, mais j'avais vraiment à cœur que ça leur parle. Mais je pensais pas que ça leur parlerait. Enfin, quand j'ai des retours très intimes sur la famille, sur un endroit, souvent qui est un pays d'origine ou un pays laissé, ou voilà, c'est hyper émouvant parce que moi, je pensais plutôt me dire, je vais m'adresser à des personnes qui aiment vraiment bien ces musiques, pour qui c'est pas un effet de mode, et qui prennent ça un peu à cœur, dans le sens que c'est des musiques qui méritent, au même titre que d'autres genres musicaux européens, qu'on en parle de manière sérieuse. Et enfin, sérieuse, sensible, sérieuse, factuelle, avec le sérieux. Enfin, quand je dis sérieux, c'est pas pour l'enfermer dans un truc sérieux, hein, Vintage Arabe, mais en tout cas, qu'on n'en fasse pas un effet de mode, un peu abordé de manière superficielle. Et malheureusement, toutes les musiques de langue non européenne sont cantonnées à quelque chose d'assez superficiel dans la manière dont on les aborde en France, et pas qu'en France, hein, c'est assez partagé en Europe et aux États-Unis, que c'est la musique du monde. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ça, mais je ne pensais pas que j'allais rentrer, parfois, j'allais mettre un pied dans la maison de quelqu'un. C'était pas...
Mais tu ne pensais pas directement faire pleurer dans les chaumières. C'est
non.
Pas le but scientifique de l'exercice.
Non, parfois j'ai conscience que ce que je dis peut être perçu comme émouvant, parce que ça peut se sentir que je le suis, mais je pensais pas faire pleurer des gens ou toucher quelque part, oui, quelque part, ou parfois même pour moi c'est difficile de percevoir où se trouve ce quelque part, ce point d'intimité qui déclenche des souvenirs, qui déclenche une émotion. Bah moi, des fois, c'est moi, je ne sais pas où se situe et ce qui provoque ça. Alors, voir que ce podcast peut parfois provoquer ça chez des gens, c'est assez déroutant.
Mmh. Et est-ce que est-ce qu'il y a un endroit où ça devient un outil scientifique, un outil dont on peut, avec lequel on peut travailler, cet espace précis du sentiment de se dire, c'est par le biais de ce qu'on va faire écouter, par le biais de ce qu'on va, de la manière dont on va toucher, que cette histoire va être transmise?
Bah, moi, je trouverais ça un peu difficile de se dire ça comme ça d'emblée. Moi, j'ai l'impression que ma démarche, c'est plutôt de me dire, va vers ce qui te plaît, vers ce que t'aimes et ce qui te touche. Après, si ça rejoint, en fait, les sensibilités d'autres personnes, j'en suis très heureuse et c'est vraiment les retours qui me touchent le plus. Mais d'aller spécifiquement chercher ce qui pourrait émouvoir... je trouve ça dur et puis je trouverais que ce serait une démarche un peu de forcer un peu le trait, quoi. Et j'ai pas forcément, ouais, j'ai peut-être encore envie de me considérer comme la boussole, on va dire, en tout cas dans ma démarche, et me réjouir que ça puisse être rejoindre les expériences d'autres personnes ou même toucher des personnes. Sur des choses que moi, je ne connais pas du tout. Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas de grand-père qui a écouté Cheikh Hamada. Et je le découvre assez tardivement, en fait, ce chanteur, dans mon parcours. Donc, c'est merveilleux que ça touche quelqu'un ou plusieurs personnes. Mais ça ne relève pas de moi, pour le coup. Enfin, ça ne relève pas de mon histoire personnelle. Ouais, je pense que le chercher, ce ne serait peut-être pas la bonne démarche. Après, j'ai conscience qu'il y a des sujets qui méritent qu'on y apporte une sensibilité, un soin, on va être plus un soin, une sensibilité. Voilà, moi, j'ai très envie de faire un jour un vintage arabe sur la Palestine dans la musique et la musique palestinienne, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'on n'aborde pas les choses de la même manière quand on est palestinien, que parfois, ça a pu être approprié par les Palestiniens, ça ne l'a pas été, d'autres fois, ça ne l'a pas été. Il y a des chansons qui renvoient aux Palestiniens dès les premières notes. Puis à côté, il y a la musique vraiment faite par les Palestiniens. Donc c'est assez c'est au stade d'idées, mais par exemple là je me dis il faut apporter un vrai soin, parce que c'est pas seulement ma sensibilité qui va être racontée, mais c'est une histoire de comment une cause et un peuple traversent la musique et traversent aussi certaines d'entre elles deviennent des symboles en fait. Qui dépasse, voilà, devient vraiment symbole du peuple palestinien, alors que pareil, parfois c'est même pas fait par un palestinien. Donc on est vraiment sur un sujet un peu, voilà, où c'est intéressant de se demander, par exemple là, sur ce type de sujet, je me dis quelle place j'accorde aux Palestiniens, à leur production musicale, alors que concrètement, dans les musiques arabes qui parlent de la Palestine, la plupart des plus connus ne sont pas interprétés par des Palestiniens. Beaucoup sont quand même relève de poésie palestinienne, de Mahmoud Darwish et d'autres poètes, mais l'artiste ne l'est pas, et c'est intéressant de se poser la question de à quel moment on leur donne de la voix aussi, Et dans le monde arabe, c'est les chansons les moins connues sur la Palestine. C'est celles qui sont faites par des Palestiniens.
Est-ce que c'est... Alors du coup, ce sera un projet qu'on... Non, c'est pas encore quelque chose...
C'est quelque chose qui est en cours de réflexion. J'y réfléchis beaucoup. Moi, j'avais déjà donné une conférence et donc un autre format, un peu plus chiant sur le... Enfin, vraiment plus chiant, intéressant, mais plus chiant, quoi, de raconter ça. Mais oui, moi, je m'interroge parfois... Oui, si je prends d'autres exemples, c'est par exemple quand je travaille sur le rail, justement, mettre en avant quelqu'un comme Cheikh Hamed, qui est un chanteur donc très ancien, mais qui est quand même à l'origine de ce qu'est le rail aujourd'hui, en tout cas dans ses fondements, dans son socle. C'est important pour moi de mettre en avant cette figure-là, qui pour le coup passe sous le radar de la plupart, de beaucoup, beaucoup de gens qui en écoutent, en France en tout cas. Ça fait pas partie du logiciel parce que cette personne n'a pas fait de concert, n'est pas une star internationale, c'est pas comme ça. Voilà, le rail renvoyant plutôt à Cheb Khaled, à Cheb Mami ou à d'autres. Ça renvoie pas à un chanteur de 60 ans en 1950, qui a 60 ans en 1950. Donc on est sur vraiment. Donc moi, j'y accorde, au-delà du fait que ça me plaît musicalement, j'y accorde une importance de lui laisser une place parce que, pour le coup, je reviens à l'histoire, historiquement, ça. Ça fait partie de l'histoire du rail, en fait.
Et du coup, est-ce que c'est peut-être super vague comme question, mais de raconter cette histoire-là en passant par la musique, qu'est-ce que ça raconte de particulier? Qu'est-ce que de passer par le musical raconte que d'autres outils n'arrivent pas à raconter?
Bah, moi, je pense que la musique, alors peut-être pas toutes les musiques, mais ça relève de quelque chose de populaire. Alors, on peut définir le populaire comme on veut, mais en tout cas, de partager largement, que c'est un vecteur qui se partage facilement à partir du moment où il y a de l'enregistrement sonore. Et que pour moi, ça peut permettre de raconter même l'histoire avec un grand H à travers juste comment les gens l'ont vécu ou comment les gens l'ont... en faisant telle ou telle chanson, ont vécu le moment politique. Et c'est vrai que ça m'intéresse pas mal de l'aborder de cette manière-là. C'est de me dire que au-delà de la musicalité de la chanson, sa structure, de quel genre musical, dans quel genre musical ça s'inscrit, de quelle période du genre musical ça s'inscrit, et de comment le chanteur apporte quelque chose en rajoutant des cuivres, je me dis, qu'est-ce que ça dit de la... qu'est-ce que ça pourrait dire, en tout cas. Parfois, on peut l'affirmer assez clairement de qu'est-ce que ça dit de la société, quand il y a un message ou pas, mais qu'est-ce que ça dit d'un moment, en fait. D'un moment qui est le moment où, peut-être pas en tout cas, pour toutes les chansons, on peut pas savoir comment ça s'est passé dans la création. Et en tout cas, on peut se dire à quel moment ça sort, dans cette telle année, est-ce que cette chanson... Et souvent, des fois, je m'interroge sur des chansons qui sont... pas nécessairement très politique, pas nécessairement, voilà. Il y a parfois, ça sert dans des années particulières, dans des moments particuliers de l'histoire.
Qui ont traversé quelque chose, qui ont du coup... je trouve hyper intéressant ce que t'as souligné, le mot populaire, en le disant. Et ça me saute à l'oreille maintenant, en l'entendant, cette dimension. C'est par le fait qu'une chanson soit passée, ait été entendue, ait été un objet de partagé de masse, qui crée aussi son intérêt, parce que la chanson a forcément ramassé des choses au passage en passant par toutes ses oreilles.
Et d'ailleurs, je me rends compte que j'aborde souvent des... Là, c'est pareil, en y pensant dans la discussion, je me dis j'aborde souvent des artistes qui ont eu quand même un vrai écho populaire. J'aborde rarement des artistes inconnus au bataillon des pays arabes, quoi, ou du pays dans lequel ils s'en servent. C'est souvent plutôt des gens
Alors qu'il y a certainement énormément de choses à trouver à cet endroit-là, mais c'est pas ce point-là qui t'intéresse.
Ouais, bah alors déjà, c'est vrai que souvent, je me dis que les gens avaient plutôt bon goût, donc moi, ça me plaît bien, musicalement. Et puis, c'est vrai qu'en fait, mine de rien, c'est les artistes, enfin, en tout cas, les artistes que je choisis qui ont un écho populaire, ça permet, en fait, d'en dire plus que la seule œuvre.
Ouais, c'est des gestes qui ont été publics, c'est des gestes qui ont été pesés.
Qui ont été acceptés ou pas acceptés, hein, parce que parfois ça peut être des gens écoutés, mais qu'on n'aime pas, pas aimés par les autorités, ou pas aimés par une partie de la des auditeurs qui ont pu défendre la
chronique. Mais qui ont pris position, la prise de position publique dit aussi quelque chose de l'existence de ces
de ces œuvres, ouais. Et pareil, quand ça me rappelle un peu là ce que je disais par rapport à est-ce que je ferai ou pas un sujet sur la musique sur la Palestine, la musique palestinienne. Et en même temps, je me dis qu'à chaque fois, quand j'ai des noms en tête, c'est plutôt des gens qui ont eu un vrai écho pour ce qui est des artistes arabes non palestiniens qui ont pu chanter la cause, parce que c'est souvent ça, hein, c'est chanter la cause palestinienne, mm-hmm. et que dans les artistes palestiniens, bah, mine de rien, même s'ils ont un écho plutôt en Palestine et aussi en Jordanie, mais là où il y a des Palestiniens, en fait, mm-hmm. au sein des auditeurs palestiniens, c'est mine de rien des gens qui ont un auditoire, enfin qui ont des gens qui sont largement écoutés, voilà, qui sont quand même largement écoutés, même si l'échelle elle est pas toujours la même. Et parfois je me dis que j'aborde ces artistes, oui, à travers l'histoire avec un grand H, mais parfois je m'attache à raconter un lieu. Enfin, je sais pas, par exemple, quand je travaille sur Barbès, j'essaye de raconter un lieu. Et parfois, je propose des musiques où je soupçonne qu'elles ont pu être diffusées, mais j'en sais pas plus que ça, historiquement, mais je sais qu'elles peuvent coller avec l'histoire du lieu. Ou alors, pour le Rail, j'en parlais, même si c'était sur Cheikh Harimiti, je me rappelle que j'ai attaché, j'ai vraiment eu envie de raconter l'Oranie, Oran et la région d'Oran, là où est née cette musique. D'où le choix de faire, de passer un chanteur... que seuls les grands-parents écoutaient.
Très bien. On arrive à la conclusion de cette conversation. Merci beaucoup, Ajep.
Merci à toi pour l'invitation.
Est-ce que tu as un projet secret ou une œuvre, quelque chose que tu n'as pas eu encore l'occasion d'achever, sur laquelle tu travailles
Alors oui, je travaille
ou alors qu'il est trop secret pour...
Non, je travaille sur le retour de Vintage Arab, prochain, au printemps, je l'espère. Voilà, j'essaye de me dire que j'aimerais bien en enregistrer au moins deux, ce qui est déjà pas mal. Et je travaille sur un LSD pour France Culture qui va me prendre du temps parce que c'est un peu à chaque fois, et des fois je me dis, mais pourquoi tu vas vers de la difficulté? Et en même temps, c'est ce qui me plaît. Mais c'est encore une fois une enquête, une certaine forme, enfin une forme d'enquête. Même si à la fin je ne le présente pas comme ça, mais souvent c'est un peu des sujets qui me demandent de beaucoup chercher, d'aller vers des sujets où il n'y a pas beaucoup d'éléments en fait dessus, mais où je sais que je peux potentiellement en trouver plus. Et il y en a un, ouais, que je prépare sur un territoire assez vaste allant du Maroc à l'Égypte au moins. Et ça part, ouais. C'est pas trop abordé, mais j'ai très envie de continuer à creuser. Et je sais que un format de 4 heures, parce que ce serait pas que raconter ouais, ce serait raconter quand même des évolutions dans cette région du monde qui est l'Afrique du Nord. Mais ouais, je sais qu'un format comme LSD s'y prête bien. Donc c'est l'idée, là, on y travaille. Quand je dis on, c'est que les équipes d'LSD sont au courant de ce projet en cours. Et j'espère... le rendre public bientôt, mais en tout cas, on n'est pas du tout encore en phase d'enregistrement ou quoi. C'est vraiment là, on est vraiment sur la phase recherche. Enfin, je suis sur la phase très recherche-écriture. Affiner le projet et aussi trouver les bonnes voies, parce que la différence entre le podcast et le documentaire, c'est aussi à quel moment je donne le micro à quelqu'un d'autre. Et ça me plaît toujours beaucoup de le faire. Et là, c'est l'idée de trouver les bonnes personnes pour en parler.
Super, bon, on est très... à l'écoute et très curieux de découvrir ça dans les mois ou années qui viennent.
Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jacques.